Radio Campus Lille, il est midi.
Yalla yalla.
Salut, lundi, midi, c'est l'heure des points sur les i.
Point barre.
Avec les camarades de l'association Davids, déploiement de l'art vital intersubjectif qui déconstruit sur la brèche. Davids contre Goliath.
Vous avez vraiment, vraiment des manières que j'adore.
Ça commence à se savoir. Commence à se savoir. Et il y a des incendies qui s'allument dans certains endroits parce qu'il fait trop froid. Traducteur, traduisez. Mais n'ayez pas peur.
Non, n'ayez pas peur.
On sait ce que c'est que la radio.
Radio Campus Lille 106,6 de la bande FM ou campuslille.com. Il est midi passé de 3 minutes et c'est l'heure du collectif Davids qui, comme tous les lundis de midi à 13h, met les points sur les i. Point barre. Alors, Christophe vient de nous rejoindre dans les studios. Bonjour Christophe. Et puis je vais inaugurer cette émission avec une lecture extrait de l'appel de Beauchastel. Je vous en dirai quelques mots après. Ma journée d'école commence. La sonnerie vient tout juste de retentir. Je rentre dans ma salle de cours. Et déjà, je m'interroge. Dois-je accueillir la classe ou me tourner vers mon écran pour effectuer l'appel électronique? Dans un souci de diversification de mes pratiques, dois-je capter le regard des élèves à l'aide de l'écran de mon vidéoprojecteur, vérifier la mise en route de toutes leurs tablettes ou décider de me passer de tout appareillage numérique? Alors que la séance se termine, prendrons-nous le temps de noter le travail à effectuer à la maison? Ou dois-je renvoyer chaque élève devant son écran pour consulter le cahier de texte numérique que je remplirai en fin de journée? C'est la pause du repas. À la cantine, que penser de ce flux d'élèves identifiés par leurs mains posées sur un écran biométrique et du bip régulier de la machine signalant son aval à leur passage? Ces adolescents dans la cour, scrutant sans cesse leur téléphone, ces surveillants et ces professeurs derrière leur ordinateur, tout ce monde se disant parfois à peine bonjour. C'est cela, le progrès? En fin de journée, dans la salle des profs, dois-je, toujours face à mon écran, trier mes courriels administratifs et remplir le cahier de texte numérique? Ou ai-je encore le temps d'échanger de vive voix avec mes collègues sur le déroulement de cette journée de classe? C'était l'introduction de l'extrait de l'appel de Beauchastel contre l'école numérique, un appel qui a été lancé le 22 décembre 2015 et version actualisée que je vous lis à l'instant le 19 mars 2016. Ça fait donc tout pile 3 ans que cet appel a été lancé par un collectif de professeurs et cette, le, C'est le tout début de l'appel que je vous ai lu et qui s'intitule « Une journée dans l'école numérique » où profs, élèves et administratifs, surveillants, CPE et autres sont submergés par les écrans, non seulement ceux de la vie privée qui font évidemment irruption dans la vie scolaire, mais encore l'éducation nationale et l'administration qui oblige de plus en plus profs comme élèves à se scotcher devant des écrans pour des tâches ou pédagogiques ou administratives. L'appel se continue avec ces quelques phrases. Nous nous apprêtons à renseigner sur chaque élève des données conservées à vie et bientôt consultables par un employeur grâce au logiciel de notes et d'appréciation et le livret personnel de compétences numérisées. On nous encourage à scotcher nos élèves aux écrans durant les seuls moments où ils y échappent encore, et cela sous prétexte de les éduquer aux médias. Pour notre part, ce que nous voulons, c'est être avec nos élèves et non servir d'intermédiaire entre eux et les machines, car sous couvert d'innovation pédagogique pour répondre aux besoins d'élèves devenus zappeurs. Donc, tout ce qui est flicage des élèves en remplissant le dossier, le livret personnel de compétences numérisées, tout ça a déjà été mis en place sous le gouvernement précédent. L'objet de ma chronique ne va pas s'arrêter à la question des collégiens ou des lycéens. Car après cette entrée en matière, je voudrais faire un petit retour en arrière vers la crèche et l'école maternelle. D'autant que, avec vos joyeux bambins, il ne reste que 8 jours avant Noël, 8 jours pour slalomer entre les gilets jaunes et se ruer aux rayons jouets dans les centres commerciaux. Ceci dit, il devient de plus en plus difficile de distinguer le rayon jouet de celui des produits informatiques et autres hochets numériques. C'est que enfants et bébés constituent un marché des plus prometteurs que les marchands de produits high-tech sont bien loin de négliger.
Les fabricants d'outils numériques l'ont bien compris. Le nouveau marché, c'est celui des bébés. Et nous voyons ainsi dans les catalogues de jouets des télés, des ordinateurs et des tablettes spécialement créés pour les bébés dès 6 mois. Les meilleurs jeux éducatifs.
Simon, après,
les jouets avec écran remplacent de plus en plus les autres jouets. Et depuis 2014, la tablette est numéro 1 des ventes de jouets. Les parents ne pensent pas mal faire. Ils pensent que l'écran calme l'enfant, le rend sage, et cela leur permet de faire tout ce qu'ils ont à faire. En plus, les parents pensent que leur enfant apprend avec les écrans, avec les jeux sur tablette, les applications sur téléphone, avec les chaînes télé spéciales bébé, le petit enfant répète les lettres, répète les chiffres, les formes, en français et même en anglais. Mais cela ne veut rien dire pour l'enfant qui ne parle pas encore. Il répète sans apprendre et ces mots n'ont aucun sens pour lui. Nous voyons des enfants qui comptent jusqu'à 100, mais si nous leur demandons « donne-moi 2 cubes », ils sont incapables de savoir ce que 2 représente.
Vous venez d'entendre un extrait de la vidéo « Comment les écrans retardent le développement de l'enfant ?» donc une vidéo réalisée par les docteurs Dukanda et Terras, qui est visionnable sur YouTube. Il vous suffit de taper « Comment les écrans retardent le développement de l'enfant ?» Ces 2 docteurs sont pédopsychiatres auprès de la protection maternelle et infantile de l'Essonne, où elles interviennent notamment dans les écoles maternelles. Et elles sont également membres du collectif Surexposition Écran. Elles tirent la sonnette d'alarme par rapport à la consommation précoce et excessive d'écran chez les enfants. Et je vous propose d'écouter un second extrait dans lequel elles nous parlent de leur expérience justement de terrain.
Des 5 dernières années, les enseignants nous demandent de voir de plus en plus d'enfants qui présentent des retards de développement, des troubles du comportement et des troubles du spectre autistique. Des enfants dans leur bulle, indifférents au monde qui les entoure, qui souvent ne réagissent pas à leur prénom, ce que l'enfant devrait faire à 9 mois, qui ne jouent pas avec les autres, qui ne s'assoient pas avec les autres, qui ne parlent pas ou qui parlent en écolalie. L'enfant répète mot pour mot une question qu'on lui pose. Des enfants qui ne comprennent pas une consigne toute simple. Des enfants inhibés qui ne bougent pas ou au contraire très agités. Ils s'enfuient, jettent tout par terre. Des enfants intolérants à la frustration. Si on leur dit non, ils hurlent, se roulent par terre. Parfois agressifs. Ils mordent, tapent, griffent. Des enfants qui ont des gestes inadaptés. Ils battent des ailes avec leurs mains, regardent fixement une lumière, une vitre, jouent toujours avec le même jouet. C'est ce qu'on appelle des stéréotypies. Or, la triade, trouble de la communication, trouble des relations sociales et stéréotypies sont la définition de ce qu'on appelle trouble du spectre autistique ou trouble envahissant du développement. Sur 500 enfants d'une même classe d'âge dans ma ville, les écoles me signalent tous les ans environ 25 enfants qui ont ce tableau, soit 1 sur 20. Je note le nombre d'heures totales passées par jour devant chaque écran. Le constat est sans appel. Les enfants de 3-4 ans en grande difficulté que nous signalent les écoles sont quasiment tous exposés massivement aux écrans, de 6 heures à 12 heures par jour. Ceci, parfois même en l'absence de toute problématique sociale ou de toute problématique familiale. Mais les écrans ne sont pas des jouets comme les autres.
Non, les écrans ne sont pas des jouets du tout même, serais-je tenté d'ajouter. Je tiens à préciser quand même que le diagnostic posé par ces deux pédopsychiatres qui troublent du spectre autistique, eh bien, est quand même très contesté au sein de la profession et exige une précision, car ce sont là des expressions malheureuses et sources de confusion. En effet, certains psychiatres, pédopsychiatres essentiellement, plaident surtout pour la reconnaissance d'un trouble neurodéveloppemental nouveau qui s'intitulerait « l'exposition précoce et excessive aux écrans », soit EP. Ce trouble neurodéveloppemental, EP, interfère dans les besoins de développement des tout-petits et en particulier chez les moins de 4 ans, et il doit être distingué des troubles du spectre autistique. Contrairement aux enfants dits autistes, les enfants atteints de ce syndrome EP ne détournent pas les yeux, du moins pour les plus jeunes. Et la suppression totale des écrans après une période difficile, certes, de protestation active de l'enfant, s'accompagne presque toujours soit on a une amélioration complète, soit seulement partielle, mais ça s'accompagne toujours d'une amélioration du comportement, un meilleur contact, un visage plus expressif et souriant, plaisir aux jeux relationnels et découverte des divers jouets conformes à l'âge, cubes, personnages, jeux de faire semblant, reprise de la communication langagière, etc. Et c'est une amélioration qui est d'autant plus importante que cette suppression des écrans est mise en place rapidement. Là, parmi les professeurs donc, qui plaident pour la reconnaissance de ce trouble lié à l'exposition précoce et excessive aux écrans, et dont je vous ai lu là quelques extraits à l'instant sans le citer, eh bien, il s'agit de Daniel Marcelli, qui est professeur émérite de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. C'est dans un article qui s'intitule « Exposition précoce et excessive aux écrans » et qui plaide donc pour la reconnaissance de ce syndrome neurodéveloppemental d'exposition précoce et excessive aux écrans. Le Daniel Marcelli nous donne quelques exemples, et notamment un que j'ai retenu parce que particulièrement parlant et révélateur. Il compare un enfant de 2-3 ans qui regarderait un album avec un adulte et le même enfant qui regarde la même histoire, mais cette fois-ci sur une tablette. Avec l'album, l'adulte commente, montre du doigt, soutient l'attention de l'enfant. Si ce dernier regarde ailleurs, le parent récupère son attention en lui montrant un nouveau détail, puis poursuit l'histoire. Si l'enfant regarde ailleurs, que se passe-t-il pendant que l'enfant regarde ailleurs? Et d'ailleurs, il ne faut pas se précipiter pour tout de suite vouloir lui montrer un nouveau détail et capter de nouveau son attention. Parce que ce moment où l'enfant regarde ailleurs, où l'enfant est ailleurs, eh bien, c'est un moment fondamental qui lui permet de penser, rêver, et du coup d'investir une activité de pensée autonome. Cette capacité de se détourner de ses perceptions immédiates sur l'album, eh bien, permet d'investir la pensée, et c'est un facteur essentiel du développement de l'attention, une activité cognitive indépendante des stimulations perceptives. En gros, rêver et avoir le regard comme ça un petit peu flottant pendant quelques secondes quand on écoute une histoire, pour un enfant, c'est une étape fondamentale pour qu'il puisse véritablement comprendre ce qu'on est en train de lui raconter, s'approprier les images et développer son imagination. Si on compare donc avec le même enfant devant la même histoire, mais cette fois-ci devant une tablette, vu que cette tablette, l'histoire est en vidéo, elle est faite d'une incessante agitation, souvent avec des images, des visages non synchronisés qui captent la fonction visuelle, intriguent le tout petit et entravent sa capacité à se détourner pour penser et rêver. Jamais le regard ne décroche pour errer dans un coin de la pièce et prendre le temps du coup de s'approprier véritablement ce qu'il est en train d'apprendre et donc tout simplement d'imprendre. On pourrait faire un très large commentaire sur cette question, sur l'importance de l'ennui, puisque l'ennui est aussi propice à la rêverie et la rêverie elle-même propice au développement. Ne jamais croire que l'ennui est un ennemi fondamental de l'enfant. L'ennui est au contraire un allié pour sa capacité à rêver, à développer son intelligence, à développer sa capacité autonome de penser. Un autre enjeu fondamental, là, lié encore une fois au tout petit et même au bébé, là, vraiment au tout petit, c'est que le collectif surexposition écran fait l'hypothèse que des enfants de moins de 4 ans présentant donc des symptômes proches de l'exposition précoce liée à l'exposition précoce et excessive aux écrans, vivent depuis leur naissance des expériences de still face qui sont répétées par manque de stimulation et d'échanges humains suffisamment continus. Alors, le still face, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une expérience en psychologie qui a été menée par le docteur Tronick en 1975 aux États-Unis. Elle consiste à observer des enfants d'environ un an en train de communiquer avec leurs parents. Il y a donc échange de sourires, le fait de montrer du doigt, des petits babillages, des gazouillis. Ensuite, on demande aux parents de se détourner de l'enfant et de revenir vers lui en présentant cette fois-ci un visage sans expression émotionnelle pendant 2 minutes. On observe alors que le bébé tente de relancer son parent avec des sourires orientés, des babillages modulés, un pointage pour partager une émotion, montrer du doigt, essayer de toucher. Mais sans réponse du parent, auquel on a donné la consigne de ne pas répondre, le bébé cherche tout de suite à s'éloigner, à fuir ce qui est pour lui une source de stress. En fait, ce qu'on constate ensuite, c'est qu'il se désorganise complètement. Il émet des sons stridents, se jette en arrière, se raidit, perd le contrôle de ses gestes, ce qui est le signe d'un état de stress intense. En prolongeant l'expérience, on verrait très probablement le bébé se replier sur des gestes d'autostimulation, adopter un regard errant et ne plus répondre aux sollicitations humaines, trop stressantes car irrégulières. Or, les enfants dont les parents passent énormément de temps sur les écrans sont exactement confrontés à ce type d'expérience de still face depuis leur naissance. Les parents, étant sur leur écran, tournent vers l'enfant le visage de temps en temps, l'interpellent parfois, mais de manière complètement irrégulière, et puis avec un visage qui est quand même marqué par l'écran, par ce qu'ils viennent de regarder sur l'écran, et qui n'a pas nécessairement une expression qui est synchronisée avec celle de l'enfant. Or, un bébé pour lequel ne s'est pas constitué l'accordage primaire avec son parent, grâce auquel se synchronisent les regards, la voix et les gestes, ne peut pas se développer de façon normale. Il ne peut pas accéder à une conscience de soi, développer un langage humain de communication et d'échange avec l'adulte. Lorsque nous demandons aux parents de retirer les écrans, on observe tout de suite un redémarrage. Davantage de regards adressés, un temps d'attention prolongé, des échanges de sourires, un besoin de jouer, davantage de curiosité, un développement du langage. Donc, il ne s'agit pas seulement de pointer les dangers relatifs à la consommation d'écran par des très jeunes enfants, mais également à la consommation d'écran en leur présence par les adultes. Alors, non seulement il y a ce dont je viens de parler, le still face, c'est-à-dire ce problème d'un lien qui se crée à travers le visage entre le parent et l'enfant et un lien continu de synchronisation. Donc ça, c'est un aspect. Mais il faut également savoir que, par exemple, un enfant moins de 4 ans, qui joue dans une pièce dans laquelle la télé est allumée, perd une capacité de concentration absolument extraordinaire parce qu'il est tout le temps perturbé par les jets de lumière qu'il y a dans la pièce, sans parler évidemment des variations sonores, parfois brutales et violentes, qui viennent le détourner de son jeu et lui empêchent d'avoir une concentration dans la durée. Donc, du coup, ça amène des gamins à ne plus être capables de se concentrer plus de 2 minutes d'affilée sur le même objet. Alors, certes, si des parents écoutent cette émission, ils vont peut-être penser qu'arrêter les écrans, c'est facile à dire, mais c'est une autre histoire lorsqu'il s'agit de priver des enfants de leur écran. C'est plus difficile à faire qu'à dire, ce dont je ne doute pas une seule seconde. Et puis, d'autant qu'il ne s'agit pas simplement d'arrêter les écrans pour les jeunes enfants, mais il s'agit de les limiter pour toute la famille, puisque, évidemment, les conséquences sont très concrètes de consommation excessive d'écran dans l'entourage de l'enfant, non seulement en sa présence, évidemment, d'abord en sa présence, je viens de parler du poste de télé dans la pièce dans laquelle jouerait un enfant, mais également, eh bien, fait que l'enfant a besoin d'être stimulé, a besoin qu'on vienne le chercher, a besoin d'échanges de regards, a besoin de gestes, etc., qui sont extrêmement limités lorsque les adultes autour de lui sont scotchés devant leurs écrans. Donc, on pourrait se réjouir, ceci dit, quand on sait que le Conseil supérieur de l'audiovisuel vient de lancer une importante campagne qui s'intitule « Zéro écran avant 3 ans ». Pourtant, l'accent est mis presque exclusivement sur la télévision, alors qu'avec la portabilité, c'est-à-dire les smartphones, les tablettes et autres Game Boy améliorés, eh bien, les écrans sont désormais présents partout et permettent le fait que les enfants ne décrochent jamais. Je vais vous faire écouter de nouveau un extrait des docteurs Dukanda et Terrasse qui va nous parler de l'évolution des chiffres de l'autisme aux États-Unis. Alors je rappelle, il ne faut pas confondre, ce ne sont pas des troubles autistiques, ce dont il s'agit, mais qui ont et qui sont encore très souvent pris pour tels.
On ne dispose d'aucune statistique fiable pour la France. Mais aux USA, le CDC, Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, a des chiffres. En 1975, curieusement après l'arrivée de la télévision, la courbe des troubles autistiques commence à augmenter avec un enfant autiste sur 5000. En 1995, un enfant autiste sur 500. En 2005, c'est un enfant sur 166. Et dernier chiffre, en 2014, c'est un enfant autiste sur 68. Une augmentation de 600% en 20 ans. En 2016, dans ma ville, c'est un enfant sur 20 qui a des troubles de la relation. On l'a bien compris. C'est tout l'avenir de notre société qui est en jeu.
Alors, pour ce qui concerne la France, il faut savoir qu'un tiers des enfants de 10 ans ont un portable. Presque 90% des 12-17 ans ont un smartphone et 100% des 18-24 ans. Il est consulté plus de 200 fois par jour, en moyenne, dès le réveil ou en pleine nuit. Et on a constaté que, a été perdu une heure, voire une heure et demie de sommeil à cause de la lumière bleue chronotoxique des écrans et de la cybernavigation nocturne désastreuse pour les capacités cognitives. Alors, Je précise ici tout de suite que il s'agit évidemment pas. Les chiffres dont parlaient à l'instant les docteurs Dukanda et Terrasse donc concernent les États-Unis où la consommation notamment de télévision est bien plus importante qu'en France, presque 2 heures de plus en moyenne par jour. Sachant qu'en France on est quand même à presque 4 heures de consommation moyenne juste de télévision. Je parle pas des autres écrans. Et alors que aux États-Unis on est à presque 6 heures, voire 6 heures dépassées, je n'ai plus les chiffres exacts en tête. Ceci dit, donc, là, les observations de terrain, donc là, ces docteurs utilisaient des statistiques qui sont faites de manière très très large et exhaustive aux États-Unis. On peut quand même déplorer qu'il n'y ait pas ce type d'enquête en France qui permettrait de tirer un petit peu le bilan, d'autant que, ce dont je parlais tout à l'heure, la portabilité des écrans, tablettes et smartphones en particulier, qui ne sont arrivés que depuis 5 ans, qui n'a pas vu un papa ou une maman ou une nounou, peu importe, faisant ses courses et ayant mis le gamin devant son smartphone, devant une vidéo de dessin animé pour qu'il lui casse pas les pieds pendant les courses. Ceci étant vrai à la fois à la maison et un petit peu partout, dans les transports, On voit partout, en tout cas moi ça me marque à chaque fois que j'observe ça, des enfants parfois qui n'ont pas atteint un an, que les parents eh bien, mettent devant leur smartphone de manière à ce que, bah, en effet, pendant ce moment-là, c'est la super nounou, il n'y a aucun problème, il est silencieux, il ne fait pas de bruit, il n'est pas dérangeant et on peut vaquer à ses occupations. Or, eh bien, comme vous venez de l'entendre, c'est absolument dramatique sur les conséquences que ça a sur le développement des enfants. Et puis, évidemment, hein, quand ça a des conséquences sur le développement des enfants, il ne faudrait pas se croire complètement indemne de dégâts pour les cerveaux des adultes. Il me semble absolument évident que, même si les dégâts ne sont pas, vu qu'on n'est plus un cerveau qui est en plein état de développement, au moins d'un point de vue biologique, hein, notre esprit, lui, se développe toujours, eh bien, je ne doute pas un seul instant que la consommation excessive d'écran pour les adultes est également des conséquences très graves, qui sont très peu étudiées, sur lesquelles on n'a absolument quasiment aucune donnée, puisque presque toujours, qu'est-ce qui est pointé lorsqu'on parle des écrans et des produits high-tech ? Eh bien, ce sont les conséquences biologiques sur les cervelles, c'est-à-dire les effets que produiraient les ondes, les effets que produirait la lumière bleue sur les yeux, etc. Mais on ne parle jamais des effets vraiment cognitifs produits sur le cerveau. Réseaux et applications sont conçus pour droguer les cerveaux à la dopamine, l'hormone de la récompense. Le nombre de likes et de vues, les flux d'actu, les messages et notifications, l'enchaînement des vidéos n'ont qu'un objectif, figer les proies devant leur écran en créant un état de chasse frénétique qui inhibe les zones du cerveau associées au jugement et à la raison. Alors là, ce sont carrément les propos de Nir Eyal, qui est designer d'application, était designer d'application chez Facebook. Précisons que presque tous les technocrates de la Silicon Valley et de la high-tech mettent leurs enfants dans des écoles type Montessori, dans des écoles où il n'y a pas d'écran et où, je précise, le prix à l'année est excessivement cher. Ces voleurs de vie ont inventé donc la captologie, inspirée de méthodes comportementalistes pour modifier le cerveau. Sans cesse stimulé, celui-ci exige toujours plus d'informations. La chute des capacités de concentration, de lecture profonde et de mémorisation est désormais enregistrée par les radars des chercheurs. Même Microsoft informe les publicitaires de la baisse d'attention de leur cible. Je cite: la concentration à long terme s'affaiblit à mesure que la consommation de contenu numérique, l'utilisation de médias sociaux et le savoir-faire en matière de technologie augmentent. Même Microsoft le dit. Toujours du côté des États-Unis, eh bien, il faut savoir que l'écriture à la main vient seulement de faire sa réapparition dans les salles de classe, alors que depuis 2013, 45 États l'avaient supprimé, et soulignons au passage que la Finlande l'avait fait en 2014. Eh bien, en 2017, ce sont 14 États qui ont changé d'avis. Le clavier est partout, mais en écrivant à la main, eh bien, ils se sont rendus compte que les élèves cherchent à comprendre ce qu'ils écrivent et donc mémorisent mieux leurs notes. Je cite Virginia Berninger, professeure à l'Université de Washington, dont les recherches portent sur l'apprentissage à l'écriture manuelle dans les écoles publiques. Elle nous dit: nous avons constaté que les élèves, jusqu'à la classe de 6e, écrivaient plus rapidement, avec plus de mots, et exprimaient plus d'idées s'ils écrivaient à la main plutôt qu'avec un clavier. Un autre collectif, là cette fois-ci, de chercheurs de l'université de Princeton, déclarait quant à eux en 2014 avoir remarqué que les étudiants qui prennent des notes sur les ordinateurs portables sont ceux qui ont obtenu les pires résultats sur les questions conceptuelles. Et oui, le fait de noter sur un clavier, non seulement eh bien, il n'y a pas le geste qui est associé au tracé de chaque lettre et de chaque mot, et du coup une inscription dans l'esprit, une capacité d'analyse et de synthèse qui diminue considérablement. Alors donc, si l'altération biologique des cervelles constitue la partie évidente du problème sur laquelle se ruent les amateurs de seuils d'exposition, de normes sanitaires et d'encadrement du désastre, facile à contenter une fois que les antennes relais ont été déplacées de leur champ de vision, eh bien la vraie question c'est celle de la déshumanisation qui nous menace autrement que le cancer. Nos cerveaux subissent évidemment aussi la tyrannie du bien pratique dans un environnement socio-technique qui nous fait croire que nous sommes obligés d'être en permanence connectés. Recevoir des alertes pour ses rendez-vous, c'est tout de même bien pratique, sans parler d'obéir au GPS pour trouver son chemin ou demander à son assistant de vie électronique de se souvenir, de traduire, de calculer, d'organiser, de suggérer, de comparer, de réserver. C'est vraiment trop pratique. Et puis, que faites-vous pendant ce temps ? Eh bien, nous désapprenons pendant que les machines, elles, apprennent. On se dépouille de nos savoir-faire et de nos savoirs tout court. Comme si la voiture et les ascenseurs nous avaient rendus sveltes et musclés. J'espère que la métaphore est claire. La machination du biotype humain devenu un espèce de technotope, du biotope humain, pardon, devenu un espèce de technotope, détruit les facultés humaines. Cette invasion nous impose la défense concrète et prioritaire de nos capacités mentales. Pour rester humains, nous devons nous concentrer, penser par nous-mêmes, restaurer et préserver nos possibilités de comprendre ce qui nous arrive, de le critiquer pour y pouvoir quelque chose. La mère de toutes les ZAD, de toutes les zones à défendre, eh bien, c'est notre cerveau et notre fort intérieur. Voilà, donc vous aurez compris le message, je l'espère, et j'insiste en terminant sur le fait que, évidemment, à Noël, eh bien, n'achetez surtout pas de jouets informatiques et numériques pour les enfants, et puis de manière générale, moi je vous invite à n'acheter aucun écran et à boycotter tout ce qui est numérique et informatique, en particulier pour les enfants. Peut-être qu'ils vous en voudront sur le coup, mais croyez-moi, ils vous en seront bien reconnaissants plus tard.
C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux, les petits enfants. Avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec les bouées familiers, n'oublie pas mon petit soulier.
Les enfants vont faire dodo et tu vas pouvoir commencer avec ta honte sur le dos. On va faire des blocs, des églises,
la distribution
des surprises. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord sur notre maison. Tu n'as pas été tous les jours très sage, mais en demandant pardon. Petit papa, très sage, mais en demandant pardon. Très sage, mais en demandant pardon. Très sage, mais en demandant.
Voilà, c'était la version Petit Papa Noël, extraite du film La Cité des Enfants Perdus. Lecture tout de suite d'une motion de soutien à la mobilisation lycéenne qui a été votée lors de l'Assemblée Générale mardi dernier des travailleurs sociaux et médico-sociaux, en particulier dans le domaine de la protection de l'enfance. Vous l'aurez compris, on reste dans la question de la protection de l'enfance, puisque ne pas acheter d'écran à ses enfants, c'est les protéger. Depuis plus d'une semaine, les mobilisations lycéennes prennent de l'ampleur et la jeunesse se retrouve nombreuse dans la rue pour défendre son avenir. Les élèves se mobilisent sur des revendications légitimes, à savoir la dénonciation de la sélection à travers Parcoursup, des inégalités territoriales que générera la réforme du lycée, mais aussi de la réduction des postes et des heures d'enseignement dans les lycées professionnels. Il est scandaleux de voir que l'unique réaction est celle de la répression. Nous sommes indignés par la violence et le mépris exercés par la police. Des enfants que la police mutile à coups de flashball, détruisant des mains ou défigurant comme dans le Loiret, le Val d'Oise, qu'elle humilie en les plaçant dans des positions dégradantes, rappelant une époque peu glorieuse comme dans les Yvelines. Une poubelle brûlée vaut-elle la vie de nos enfants ? L'UNICEF nous rappelant à juste titre que partout, tout le temps, un enfant reste un enfant. À quoi sert le travail des éducateurs, des professeurs, des psychologues et tous les autres si la police démolit tout ce que nous construisons avec eux ? Enfants qui risquent de ne plus faire confiance aux adultes. Nous, professionnels de la protection de l'enfance, prévention spécialisée, aide sociale à l'enfance, protection maternelle et infantile, etc., professionnels de la pédopsychiatrie et j'en passe, réunis ce mardi 11 décembre à Lille lors d'une assemblée générale regroupant près de 300 personnes de différentes régions, nous dénonçons ce qu'on appelle la violence institutionnelle effectuée par les corps de police. Nous considérons qu'il n'est pas possible de voir d'un côté le vote d'une loi à l'Assemblée nationale pour interdire les fessées, tout en laissant la police tirer sur des enfants avec des flashballs. Nous dénonçons également l'accroissement des dispositifs sécuritaires, comme l'armement des polices municipales, la création de 20 nouveaux centres éducatifs fermés, antichambres des prisons, ainsi que la casse de l'ensemble de la protection de l'enfance, aide sociale à l'enfance, protection maternelle et infantile, prévention spécialisée, des structures jeunesse, éducation populaire, missions locales, centres d'information et d'orientation, associations sportives et culturelles, etc., et celles de l'éducation nationale. Nous continuerons à protéger les enfants, car ce sont nos avenirs, ce sont notre avenir, et nous défendrons leur droit à manifester et à s'exprimer. Nous soutenons ces jeunes qui luttent pour prendre leur avenir en main et s'opposer aux politiques antisociales dont ils sont victimes, et notamment les plus précarisés d'entre eux. Voilà, c'était donc une motion de soutien à la mobilisation lycéenne par l'Assemblée Générale qui réunissait travailleurs et sociaux et médico-sociaux dans la protection de l'enfance. Il y avait des gens qui venaient de Nantes, de Rouen, de Caen. Il y a eu des manifestations simultanément à Saint-Étienne, une grève qui s'est déclenchée à Paris parce qu'aujourd'hui, eh bien, une fronde gronde dans tous les services de l'aide sociale à l'enfance et de la protection de l'enfance suite à la réduction des budgets et des conditions de travail qui ne permettent absolument plus de protéger les enfants. Nous y reviendrons dans une prochaine émission.
Comme aimait à le dire Sœur Emmanuelle, c'était son cri de guerre, si je puis dire. Nous sommes lundi, le 17. Lundi dernier, notre membre de l'association David Benchetri, notre association s'appelle David, nous a quittés. Je l'ai appris le lendemain. J'ai appris, quelques jours après, la disparition d'un autre de mes amis que je m'apprêtais à voir à Cambrai. David Benchetrit, Gabriel Dormini. 33 ans, pour les deux, d'amitié au compteur de la vie. Je préfère donc passer de la nécrologie à la méthodologie. Je sais qu'un livre a été écrit à nos amis. Je dédie ce que je vais dire, non pas à tous mes amis, c'est clair, c'est un clin d'œil, mais à l'amitié. Et voilà ce que ces deux êtres humains m'ont appris. David, 3D pour l'amitié. La défaillance, la direction, la droiture. Que ce soit dans le domaine de l'art, ou, comme l'a dit Blanchot, ou en clin d'œil Borges, qui disait « on écrit toujours pour ses amis », que ce soit dans le domaine du politique, toutes les écoles de la résistance, pour faire face dans le combat, on appelle ça des camarades, qu'importe le mot. Eh bien, il y a bien sûr les poncifs, qui sont vrais quand on les vit, parce que c'était lui, parce que c'était moi, un ami véritable est une douce chose. Un ami véritable, c'est te dire non quand tout le monde te dit oui. Bien sûr. Je vous épargne les référents et les citations. Alors, droiture. La capacité de tenir parole, d'être à l'heure, d'être pragmatique. Quand tout le monde fait des vocalises, tout le monde s'échauffe, de dire qu'est-ce qu'on mange, où on dort. Penser l'organisation avec humilité et tact. pouvoir compter sur l'autre, et bien sûr, dans les moments difficiles, voilà ce que et Gabi et David m'ont permis de vivre avec eux et de continuer de penser. D'ailleurs, cela était dans la ligne de ce que m'ont appris mes aïeux, qui ont traversé des guerres, et en particulier pour ceux que j'ai connus, la Seconde Guerre mondiale, dans les équipes, les teams de la Résistance. Il était clair que la sélection se faisait sur le critère sur qui on peut compter. Pas en cas de coup dur, c'était le coup dur, sur qui on peut compter. L'école de la vie apprend que, bien sûr, quand tout va bien, il peut y avoir du monde, surtout s'il y a champagne, cotillon, etc. Mais que quand ça chie dans la colle, puisque ça chie dans la colle pour tout être humain, la mort n'est pas une personne, la souffrance n'est pas une personne, et bien là, le tri se fait, si je puis dire. Ensuite, la défaillance, sujet délicat. Connaître un être humain, c'est l'aimer par-delà ses propres défaillances, par-delà les siennes, et s'aider l'un l'autre à se corriger. Ces deux amis étaient totalement transparents et je leur étais également totalement transparent, quels que soient les dossiers. La famille, la santé, l'argent, la sensualité, les amours, la politique, toutes les questions. Donc ils étaient pour moi des conseillers avisés et prudents. Bien sûr, pour les défaillances, nous devions toujours appliquer cette loi. Le plus raisonnable commande la marche. Ce qui renvoie à une très belle approche d'Antoine de Saint-Exupéry. Là, je le cite parce que cette approche est gravée sur le siège du Grand Orient de France, rue Cadet. Si tu diffères de moi, mon frère, bien loin de me léser, tu m'enrichis. Et en prime, ils étaient pour moi deux frères. Alors, j'ai également employé un terme qui commence par D, ABCD, qui était le dévouement. La force, pour non pas devancer la demande d'aide, mais la capter et l'organiser avec une grande discrétion. Ça s'appelle être chouette. Et ces deux êtres humains étaient très chouettes. En ces temps très délicats, non seulement pour notre espèce humaine par rapport à, je dirais, la menace écologique dont j'ai si souvent parlé, donc je vous épargnerai le quart d'heure, si je puis dire, ou bien la fin du mois, ou bien la fin du monde. Et puis également, le mouvement des gilets jaunes, entre guillemets, dont je dirais simplement aujourd'hui que le fait que des êtres humains se rencontrent, discutent et échangent, c'est bien. Après, comme tout le monde le sait, ce qui compte, c'est dans quelle direction et à qui cela profite. Prudence et vigilance. Mais en soi, la révolte contre l'injustice, c'est bien. Bien sûr. Et je la partage, et c'est mon combat. Encore faut-il savoir, à un moment donné, quel est le chef ou les sous-chefs, plus ou moins cachés ou déguisés, qui, à la manœuvre, vont récolter les fruits de ces combats. Mais là, c'est une autre question qui nous concerne tous, et à chacun de tenir sa position. Voilà. Je conclurai en disant ceci. Ayant vécu avec David Benchetrit un moment particulier de ma vie où l'un marchait devant, l'autre derrière, dans un lieu du monde où nos vies étaient en danger à cause de notre inconscience, j'avais su à ce moment-là qu'il était courageux, il savait qu'à ce moment-là je l'étais aussi, et que nous veillions l'un sur l'autre. Cette expérience indicible, magnifique, avait forgé ce que nous étions. Et l'autre leçon qu'apprend l'amitié, et donc la perte, l'absence de l'ami, C'est bien sûr que l'on croit au ciel ou que l'on n'y croit pas. Tout le monde comprendra que cette étincelle d'affection humaniste, de partage, eh bien, quand l'autre n'est plus là, elle grandit. Et qu'il y a une beauté du travail de la mémoire qui fait que les instants de joie ou même de tristesse reviennent, nous traversent, nous nettoient. Les larmes peuvent être également, bien sûr, une manière de se délivrer de sa tristesse, mais Gabi et David me donnent de leur force. Et cette force est en moi. Et je pense que si, à un moment donné, et pour ce qui va suivre, nous oublions que nous sommes fragiles, que nous avons besoin des autres, qu'il faut dépasser toujours sa colère par rapport à sa propre situation pour écouter, partager et tirer les fruits des combats contre l'injustice du passé pour se donner la main et avancer, eh bien, lorsque des camarades, frères, coreligionnaires, commensaux quittent, parce que David était à côté de moi autour de cette table il y a quelques jours, quelques heures à peine, dans ce studio, eh bien, le souffle de l'émotion, de l'enthousiasme d'avoir été ensemble continue de nous traverser. Et voilà, je termine, je vais faire la demande à Simon de mettre une musique qu'il affectionnait beaucoup, qu'il m'a fait découvrir, je ne la connaissais pas, et qui est de Amy Winehouse, Back to Black. So far, move.
Les deux amis. Deux vrais amis vivaient au Monomotapa. L'un ne possédait rien qui n'appartint à l'autre. Les amis de ce pays-là valent bien, dit-on, ceux d'une autre. Une nuit que chacun s'occupait au sommeil et mettait à profit l'absence du soleil, un de nos deux amis sort du lit en alarme. Il court vers son intime et éveille les valets. Morphée avait touché le seuil de ce palais. L'ami couché s'étonne. Il prend sa bourse, il s'arme, vient trouver l'autre et dit « Il vous arrive peu de courir quand on dort. Vous me paraissez homme à mieux user du temps destiné pour le somme. N'auriez-vous point perdu tout votre argent au jeu ? En voici. S'il vous est venu quelque querelle, j'ai mon épée. Allons. Vous ennuyez-vous point de coucher toujours seul ? Une esclave assez belle était à mes côtés. Voulez-vous qu'on l'appelle ? Non, dit l'ami. Ce n'est ni l'un ni l'autre point. Je vous rends grâce de ce zèle. Vous m'êtes en dormant un peu triste apparu. J'ai craint qu'il ne fût vrai. Je suis vite accouru. Ce maudit songe en est la cause. Qui d'eux aimait le mieux ? Que t'en semble, lecteur ? Cette difficulté vaut bien qu'on la propose. Qu'un ami véritable est une douce chose. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur. Il vous épargne la pudeur de les lui découvrir vous-même. Un songe, un rien, tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime.
Voilà, petite proposition aux débeautés de cette fable de Jean de La Fontaine intitulée « Les deux amis » et dont est extraite la fameuse citation « Qu'un ami véritable est une douce chose ». Je pensais également en t'écoutant sur cette question de l'amitié au justement à l'amitié aussi dans sa naissance dans puisque tu as parlé de manière très courte des gilets jaunes, je pense de manière plus générale d'ailleurs à l'ensemble des mouvements sociaux, politiques et des luttes qui sont en général des temps très forts où se forment des amitiés. Parmi déjà nous trois avec Baptiste qui exceptionnellement n'est pas là aujourd'hui, nous nous sommes rencontrés pendant un mouvement politique.
Mouvement anti-CPE. C'est vrai.
Nombre de nos amis, copains, camarades du collectif Davids, sont des amis de la même période et du même mouvement.
Absolument. Tu fais bien de faire cette remarque parce que, à bien y réfléchir, lorsque j'étais enfant, j'étais entouré de personnes âgées qui étaient amies et par-delà la famille. C'était des liens tissés dans les réseaux de résistance. Donc ça, c'était l'étage des grands-parents, si je puis dire. Et cette génération est partie. Puis la génération de mon père, c'était mai 68, n'est-ce pas ?
Nous étions d'ailleurs hier chez des amis dont la plupart...
C'était connu en mai 68, voilà. Donc pour donner des exemples concrets, donc il y a encore des... Il y a de moins en moins d'êtres humains qui se sont connus pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont aussi forgé des liens dans les camps de concentration. Il y a aussi ceux qui se sont connus en mai 68, je parle pour la France bien sûr, ceux qui se sont connus comme nous pendant le mouvement anti-CPE. Nous avons également des amis que nous avons rencontrés au mouvement des indignés. Et c'est vrai que une des leçons que nous avions déjà tirées du mouvement, du combat, de l'action collective, c'est que cela forge des amitiés qui durent. Ce n'est pas la même chose les équipes de sport, les amitiés scolaires, universitaires, etc., qui peuvent être très belles, bien sûr, mais là, il y a quelque chose d'autre qui se joue aussi. C'est qu'il y a une évidence de devoir faire face à une question qui nous dépasse. Il ne s'agit pas simplement...
Puis à l'adversité aussi.
Une forme d'adversité, une forme d'adversaire. Il y a l'adversité et l'adversaire. Il y a un adversaire. Il peut y avoir un adversaire, de quelque manière que ce soit. Et tu as tout à fait raison de rappeler cela. Tu as dit que, bien sûr, j'ai peu parlé du mouvement des Gilets jaunes parce que ce n'était pas pour moi le jour, si je puis dire.
Puis c'était pas tant la question du mouvement des Gilets jaunes que juste l'entrée dans le fait que moi déjà en cela qu'ils amènent des personnes à se rencontrer et échanger, à tisser des amitiés.
C'est ce que j'ai dit, bien sûr.
Est intéressant, ne serait-ce que sous cette approche-là, quoi.
Voilà, tout à
sous
fait.
Cet angle.
Maintenant, je me garde bien. Je n'ai évoqué ni aucun sondage par rapport aux européennes, ni le pourcentage d'électeurs du Front National, etc., ni la question des violences, qu'est-ce qui est derrière, ni la question de la récupération, ni la question de ceci, ni la question de cela. Voilà. En revanche, par rapport à ce que j'avais dit la semaine dernière, qui était assez chiffré, ce qui a été mis sur la table, c'est à peu près 10 à 12 milliards pour, en quelque sorte, alléger les comptes de nos concitoyens, dont les miens. Mais je ne vais pas refaire ma chronique. Il est clair que Bercy a peu bougé et que certains représentants des grandes fortunes sont venus, mais qu'il n'a pas été demandé un effort particulier, ni pour les banques, ni pour les compagnies d'assurance, ni pour les grandes fortunes, ni pour les multinationales, comme Facebook, etc., etc., ni de revenir sur l'impôt sur les grandes fortunes, ni sur les flash tax, ni sur une task force de recrutement de centaines de contrôleurs des impôts pour l'évasion fiscale, etc., etc., pour la faire court. Ça ne m'a point échappé, ça a échappé à personne. Donc pour moi, tout cela est très concret, pragmatique comme approche, c'est la mienne. Quand on parle d'injustice sociale et de moyens pour le service public et la lutte contre le réchauffement climatique, il faut parler gros sous, et quand on parle gros sous, il faut se demander là où ils sont, et que pour le moment, il y a une grande distorsion entre ce que certains racontent, entre le c'est pas possible, il y a cas, etc., mais les mesures qui ont été prises pour le moment, eh bien, ne font pas vaciller, si je puis dire, la quiétude de celles et ceux qui considèrent que M. Emmanuel Macron est un représentant tout à fait correct pour la gestion de leurs intérêts patrimoniaux. Voilà.
C'est clair. Là, de ce côté-là, c'est d'ailleurs pendant son allocution télévisée
que j'ai regardé en différé.
C'était quand mardi, lundi.
C'était lundi soir.
Lundi dernier.
Le jour où David est parti. Oui, c'est ça. C'était lundi. Emmanuel Macron parle et David ne parlera plus. Voilà.
Mais même quand il annonce les mesures, les quatre mesurettes qui ne passent pas du tout, en fait, il s'adresse très clairement, en fait, au patron. Il leur dit, alors je vais augmenter le SMIC de 100 euros, mais vous en faites pas, mes amis les patrons, ça ne vous coûtera rien. Et puis, quand il parle, évidemment, alors, de défiscalisation des heures supplémentaires, là, c'est carrément un cadeau. C'est comme ça, ça vous évite d'embaucher si vous avez besoin de plus de travail. Il vous suffira de faire bosser plus ceux qui bossent pour vous. Ça vous coûtera moins cher. Hein. Et puis, il y avait une autre mesure, comme ça, ça ne me revient plus à l'esprit présentement, dans laquelle, très clairement, c'était, il s'adressait simplement aux possédants, à ceux qui... Et au patron des entreprises, quoi.
Oui, et puis il y a...
Absolument pas aux gens. Et puis en plus, il les convoque, évidemment, après à l'Élysée.
Tout à fait.
Enfin, bref, c'est...
Et pour garder une métaphore d'alpiniste, vous avez parlé des premiers de corvée et des premiers de cordée, n'est-ce pas ? Le pic de consommation, c'est au mois de décembre, la trêve des confiseurs. Et forcément, c'est aussi la période où il y a le plus de suicides en France, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont envoyés leur solitude. Et puis c'est aussi la période où forcément ceux qui peuvent moins consommer s'en rendent un peu compte, quand bien même ils ont des primes pour les plus pauvres de 100 euros pour pouvoir consommer. Et donc ce n'est pas anodin non plus que par-delà tout ce qu'on peut toujours dire avec une forme de mépris, que les gens se bougent quand il y a du soleil. Je suis fasciné, j'ai beaucoup de respect, j'y suis allé en tirage sur le terrain, de voir des personnes âgées, des femmes, des retraités, des gens qui travaillent, des Françaises et des Français qui, dans le froid, se réchauffent au bras zéro en plein hiver. Voilà.
On va laisser la place à Arnaud del Barrio Jazz. Bonne écoute, restez sur Campus.